On en vient à l'invité de la semaine. Laurent, l'invité de la semaine, eh bien, c'est un collègue. Il s'appelle Paul, Paul Conge, journaliste donc Police Justice BFMT. Bonjour Paul, je vous laisse vous installer. Et vous êtes l'auteur de Tueur d'extrême droite, enquête sur une menace française, paru aux éditions du Rocher. Merci d'être avec nous pour en parler. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, j'avais une question qui me paraissait assez simple, mais en même temps assez évidente. Est-ce que c'est compliqué, quand on est journaliste, quand on veut enquêter, est-ce que c'est compliqué, difficile, dangereux d'enquêter sur cette mouvance ?
Oui, bah oui, absolument, parce que ce sont des gens qui sont dans une idéologie tellement radicale, hostile à la fois à l'État, à la République, aux journalistes, qui sont perçus vraiment comme des ennemis. Fonctionnent en vase clos, ils sont fermés sur eux, donc évidemment ils sont très compliqués à approcher. Cela dit, dans ce livre, je voulais absolument quand même que ce soit une espèce de polar, donc je voulais m'intéresser aux entourages, aux amis, aux parents. Donc il a quand même fallu aller à leur contact. Et puis bon, bah certains tout de même ont accepté, même si je me suis pris un certain nombre de murs quand même.
En fait, il y a trois affaires imbriquées les unes. Enfin, l'unité de temps, c'est l'année 2022, et c'est trois affaires en plein Paris. Peut-être on peut les prendre une par une, en commençant par le 19 mars.
Oui, absolument. Et bien, ce jour-là, c'est Federico Aramburu, un ancien rugbyman argentin qui est engagé dans une bagarre contre deux anciens militants du GUD, une organisation ultra-violente qu'on connaît bien à Paris. La bagarre dégénère et à un moment donné, eh bien, il se fait tirer dessus, Federico Aramburu, à la fois par Romain Bouvier d'une part, Loïc Lepriel d'autre part, et il meurt sur le bitume parisien vers 6h du matin.
Ce qu'il faut comprendre, le rapport avec l'extrême droite, c'est que évidemment les auteurs font partie du GUD. On va revenir sur le profil particulier, mais c'est qu'a priori, il y a une remarque qui ne passe pas, une remarque plus ou moins raciste de l'un des deux, qui est repris par ces deux rugbymen, et c'est qu'à partir de là, il y a des gestes, il y a une bagarre ultra-violente, et il y a aussi la volonté d'en découdre jusqu'à la fin, parce qu'il y a une poursuite, il y a deux reprises des tirs qui sont échangés, il y a vraiment la... Pardon pour l'expression, mais il y a la volonté de fumer l'autre, de le faire tomber. C'est une expression « je tombe, tu tombes » que vous écrivez dans le...
Oui, absolument, parce que ça, c'est la mentalité du GUD, si vous voulez. C'est vraiment un groupe sont des bagarreurs. Ils ont besoin, quand ils ciblent quelqu'un, eh bien, il faut qu'il termine par terre. Et là, en l'occurrence, il termine par terre de manière quasiment irrémédiable. Mais c'est vrai que là, il y a eu... Parce qu'au départ, cette bagarre qui a eu lieu donc dans le bar Le Mavillon, ils ont été séparés.
6e arrondissement de Paris,
dans les beaux quartiers.
Saint-Germain-des-Prés,
dans les très beaux quartiers.
Lieu de fête, mais plutôt calme habituellement.
Oui, là, on n'est pas habitué de voir des cadavres le matin en se réveillant. Et ben justement, ce jour-là, ils ont été séparés par des vigiles et la bagarre semblait terminée à ce moment-là. Federico Aramburu et son ami rentrent à l'hôtel, ils veulent aller se coucher, mais non, ils se font pourchasser par ces deux militants, un en voiture dans une jeep militaire, l'autre à pied. Ils finissent par leur tomber dessus et puis par leur tirer dessus.
Et puis il y a cette signature, cette phrase signature un peu que Paul raconte dans son livre, c'est on est chez nous. Alors le Priol, il part en cavale au fin fond de l'Europe de l'Est.
Il rejoint l'Ukraine.
Il rejoint l'Ukraine.
La guerre en Ukraine venait à peine de commencer.
Son complice, il veut aller dans une abbaye à Solem, se réfugier.
Chez les moines.
Donc c'est vrai que tout ça, alors ils vont se défendre en disant, on va le voir dans les deux autres affaires aussi, c'est toujours les mêmes défenses que Paul déconstruit, mais ils vont se défendre en disant que c'est une simple bagarre.
Oui, c'est une simple bagarre. C'est toujours un peu l'argument, mais c'est une série. En fait, c'est une bagarre, mais qui est la dernière bagarre d'une série de bagarres qui ont commencé quasiment 10 ans auparavant. Ils sont dans une dérive ultra-violente depuis extrêmement longtemps, et cette violence, elle est encouragée par l'organisation militante quand ils militent, donc au sein du GUD. Et cette dérive violente est de plus en plus extrême. Elle est de plus en plus extrême parce que il y a des bagarres en sortie de boîte de nuit qui finissent dans des bains de sang. Il y a cet épisode qui leur a valu une condamnation plus tard.
Pour avoir tapé sur l'ancien chef du GUD,
l'ancien chef Éloire Klein, il tente un guet-apens chez lui, ils arrivent à 5, ils le tabassent, ils veulent l'humilier aussi, donc ils le filment, ils le font se déshabiller, ils le font danser la Macarena, et s'ensuit vraiment un rituel d'humiliation, mais d'un sadisme exacerbé. Où Loïc Lepriol, donc un des mis en cause dans cette affaire, sort même un couteau à l'âme crantée pour le menacer. C'est vraiment un déferlement de violence, une hystérie collective.
Ce qui est frappant aussi, c'est cette ultra-violence dans laquelle, notamment, c'est ce qui ressort de votre enquête, Loïc Lepriol baigne depuis tout petit. C'est un commando marine. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va franchir les étapes les plus compliquées pour être dans une unité d'élite et de première ligne de l'armée française.
Ah, mais c'est ça. Et en fait, déjà, dès le plus jeune âge, il a des problèmes de discipline à l'école qui fait qu'il est renvoyé de plusieurs établissements. Son père veut le mettre à l'armée en espérant voilà, que ça calme un petit peu ses ardeurs. Et il finit par intégrer l'école des fusiliers marins, puis par passer le stage commando qui fait qu'il accède à l'unité d'élite, les forces spéciales, le commando de Montfort. Et là, il est envoyé en zone de guerre, au Sahel, où il participe à des opérations de neutralisation de djihadistes. Et bon, il est encore très jeune à l'époque. À 18 ans, il part comme ça dans des missions extrêmement dangereuses. Il se trouve que c'était un très bon élément. Au même moment, quand il rentre en France entre les missions, là, il commet des violences dans les rues, ce qui lui vaut d'être fiché S à deux reprises par le renseignement parisien, mais aussi par la DGSI, ce qui ne l'empêche pas de revenir à l'armée ensuite et de continuer ses missions.
C'est un peu comme s'il y avait, on connaît la phrase, le djihadisme d'atmosphère. Mmh. C'est un peu comme s'il y avait une violence d'atmosphère. Parce que la deuxième affaire de l'année 2022, c'est le 14 mai à Pigalle. Martial Lenoir, qui va être jugé bientôt.
Il est jugé à partir du 17 juin à la cour d'assises de Paris.
Ouais. Il a un flingue dans la voiture.
Ah oui.
On pourrait dire c'est un petit fait divers, un banal fait divers. Ah non, en réalité, il a un passé, il baigne dans cette, Paul le raconte, le décortique, il baigne dans une haine des Juifs.
Haine des Juifs, et pas que, mais alors, effectivement, son principal objectif, lui, c'est de réhabiliter Adolf Hitler, donc il a créé une chaîne Telegram dédiée à ce but, et donc depuis 6 mois avant de commettre son crime, il assène quasiment quotidiennement des messages extrêmement virulents, des appels à la haine, des appels à la violence, qui visent aussi bien les Juifs, à vrai dire, que les musulmans, et 3 heures avant de presser la détente, le jour où il tue un jeune homme à Pigalle, à 2 pas du Moulin Rouge, au milieu de la nuit, 3 heures avant de lui tirer dessus, il lançait encore un énième appel à la violence raciale sur sa chaîne Telegram. C'est vrai que c'est difficile de dissocier ce geste de toutes ces sorties racistes extrêmement violentes depuis tant de temps. Et puis cette arme qu'il avait sur lui, à la ceinture, depuis 6 mois, pourquoi il la portait? Parce qu'il avait peur de la guerre civile, et donc il voulait... voilà, être en mesure de se défendre, voire d'attaquer.
Avant de venir à l'autre affaire, rue d'Anguin, plus je m'en rappelle parce que j'étais à l'antenne et on l'avait vécu, on comprenait pas ce qui se passait, on essayait de le raconter. Les fichiers S. On parle beaucoup des fichiers S et des islamistes radicaux, des terroristes potentiels. Les fichiers S, extrême droite, ultra droite. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que quand je vous entends sur l'appli Telegram, est-ce qu'ils ne sont pas assez pris au sérieux par les services de renseignement, puisque visiblement, en tout cas pour lui, il arrivait à circuler et...
Il est clairement passé entre les mailles, mais en général, il passe pas entre les mailles. Justement, les services de renseignement estiment que la menace d'ultra-droite, c'est aujourd'hui la deuxième menace la plus importante après la menace djihadiste, évidemment. On compte 3300 membres de l'ultra-droite en France, dont 1400 qui sont fichés S, et on leur reproche en général plusieurs choses, des agressions de rue, une cinquantaine par an, des... projet d'attentat. Ouais. On a déjoué 14 projets d'attentat de cellules terroristes constituées parfois depuis 2017. Et puis aussi donc ces homicides. Là, j'en dénombre 5 dans ce livre. Et vraiment, c'est une série de meurtres de la part de l'ultra-droite qu'on n'avait pas vu. Je pense même qu'on n'a jamais vu. C'est-à-dire que le dernier meurtre par arme à feu de l'extrême droite, c'est en 2001. Et subitement, en 2022, vous en avez 5, quasiment coup sur coup, dans le sillage d'une élection présidentielle sous haute tension, avec un mode opératoire qui fait penser au terrorisme.
On termine avec le 23 décembre.
Oui.
Ces 3 Kurdes qui sont tués.
Rue d'Anguin. Par un ancien chauffeur de TGV. C'est ça.
Un profil.
Et puis tout d'un coup. Et puis on découvre dans l'enquête de Paul à quel point il aurait pu en tuer beaucoup plus. Même si il tue 3 personnes. Je ne savais pas une héroïne de la lutte contre le djihad, justement.
Wilhelm Malet, il débarque le 23 décembre 2022 devant le 16 rue d'Anguien, où il y a un centre démocratique kurde, et il abat 3 personnes, dont effectivement une ancienne chef de guerre kurde, qui était venue en France après avoir combattu Daesh, quand même. Et Wilhelm Malet, c'est vraiment un personnage assez fou. Moi, j'avais jamais vu un profil pareil. Effectivement, conducteur de train à la retraite, champion de tir aussi, un ancien tireur d'élite de l'armée pendant son service militaire. Et puis il est quelqu'un, c'est un profil très très solitaire, qui a des fantasmes très curieux de viol, de tuerie de masse, et qui a toujours voté pour Jean-Marie Le Pen, et ça il en est très très fier. Depuis 1974, continuellement, il a toujours voté pour le Front National, et son racisme anti-arabe s'est vraiment exacerbé après un cambriolage.
Ouais, c'est ça. Et il dit tuer des Arabes, peu importe où et comment. Il veut, ça peut être une fusillade dans la rue, ça peut être s'en prendre à une mosquée. C'est vraiment, tous les moyens sont bons. Et plus il y en aura, plus il fera de victimes, plus visiblement ça contentera sa haine. Il y a vraiment c'est une espèce de sensation quand on lit cette enquête.
Et d'ailleurs, il se fait arrêter en plein milieu de sa fusillade, si j'ose dire. Il se fait maîtriser par les Kurdes rue d'Anguien, ce qui évite qu'il tue plus de personnes, parce qu'il était arrivé avec 4 chargeurs. quand même, il avait l'intention d'en tuer beaucoup plus. D'ailleurs, il le dira pendant l'instruction. Il dit, mais je n'en ai pas tué beaucoup.
Et c'est lui qui avait déjà attaqué au sabre, qui était fiché, bah oui, qui était sous surveillance. Enfin, c'est aussi dans le point commun des trois enquêtes, c'est aussi qu'ils étaient tous, ils étaient pas sous les radars, ils étaient déjà dans les radars.
Pas du tout. Deux fichés S, Loïc Le Prieul, Romain Bouvier. Un qui était recherché par la police, Marcel Lannoy, parce qu'il avait pas répondu à une convocation judiciaire. Et le dernier, effectivement, William Mallet, lui, il sortait tout juste de détention parce que un an plus tôt, il avait attaqué au sabre, au petit matin, un campement de migrants à Bercy, le long de la Seine, et il avait blessé très, très gravement un migrant érythréen à cette occasion-là.
Paul, une dernière question. Le sous-titre de votre ouvrage, c'est Enquête sur une menace française. Est-ce qu'aujourd'hui, cette menace, elle est plus présente qu'avant? Elle peut se traduire de façon plus meurtrière ou plus violente ou plus fréquente?
En tout cas, c'est ce qu'on voit dans les chiffres. Quand on regarde les statistiques des violences commises par l'extrême droite depuis à peu près 2019, on voit clairement chaque année le nombre augmenter. On voit aussi que depuis 2017, je le disais tout à l'heure, les projets terroristes sont démantelés. Donc on a une soixantaine de personnes incarcérées aujourd'hui qui appartiennent à la mouvance d'ultra-droite et dont certains préparaient donc des attentats. Et puis il y a ces homicides qui se suivent, qui effectivement laissent à penser, en tout cas, qu'il se passe quelque chose au sein de la mouvance d'extrême droite, qu'elle dérive de plus en plus vers la violence meurtrière.
Merci beaucoup, Paul. Tueur d'extrême droite, enquête sur une menace française aux éditions du Rocher, c'est votre enquête, c'est à lire. Ça se lit, vous l'avez dit, comme un polar, comme un roman, c'est extrêmement évidemment documenté et c'est extrêmement intéressant.